RFI, grand reportage, Marie Casadebé.
On part aujourd'hui à la rencontre de Tunisiens partis clandestinement en Europe au lendemain de la révolution de 2011. Ces hommes avaient l'espoir d'une vie meilleure, mais une fois sur place, c'est la désillusion. Pas de papier, pas ou peu de travail, et donc une aide limitée à la famille restée au pays. Malgré la honte et la déception, ces Tunisiens ont décidé de revenir chez eux, parfois dégoûtés de l'Europe. Rentrer au pays la tête haute, un grand reportage signé Jeanne Bergaoui.
Ils ne prêtent plus attention aux embouteillages ni même aux automobilistes mal lunés qui ont oublié leur code de la route depuis bien longtemps. Samy, c'est un nom d'emprunt, a enfin retrouvé sa sérénité après ce qu'il appelle un an et demi de misère en France. Presque dégoûté par la vie là-bas, il est rentré spontanément en Tunisie en 2013. Aujourd'hui, Samy est chauffeur de taxi à Zarzis, une ville littorale du sud du pays.
Moi je vis très bien ici, ma vie n'est pas trop difficile, en fait je ne suis pas vraiment obligé d'aller en France. C'est pour ça que je suis rentré. Je sais pas, la France c'est une autre vie, c'est pas comme notre pays. En France il faut quelqu'un de serein, sans soucis, quelqu'un qui a l'habitude de vivre une vie de merde, quelqu'un qui supporte tout.
Une vie de merde, les mots sont forts, pourtant Samy les répète. En France, il pensait devenir le héros de sa famille, faire vivre ses parents, mais il a à peine pu leur envoyer de l'argent. Comme lui, des milliers de jeunes Tunisiens sont montés sur un bateau en direction de l'Europe, profitant du chaos sécuritaire au lendemain de la chute de Ben Ali en janvier 2011. C'était un véritable appel d'air. En quelques mois, le pays a vu sa jeunesse s'enfuir par la Méditerranée. Les estimations officielles oscillent entre 28 000 à 40 000 départs en 2011 et 2012. Certaines villes ont particulièrement souffert de cette vague migratoire. C'est notamment le cas de Zarzis, la ville de Samy. Située en bord de mer, elle est devenue un haut lieu de la migration clandestine.
Là, tu vois, des petites embarcations comme ça.
Mondji Slim est le président du Croissant Rouge à Médénine, dans le sud tunisien.
4 ou 5 jeunes, hop, donc se rencontrent au large avec le grand bateau qui part en Italie. Ouais.
Donc là, on longe les plages de Zarzis.
Voilà, tout donc les côtes qui sont assez longues, hein, c'est à peu près une vingtaine de kilomètres. Si vous vous êtes promené en ville, vous voyez que c'est vide, hein, il n'y a plus de jeunes. Tout le monde est parti, hein. Zarzis est pratiquement vidé. Et ça se répercute au niveau des équilibres entre garçons et filles. Avec le problème, bien sûr, en conséquence. Hein. Donc il y a des filles qui ne trouvent pas de mari.
Des déséquilibres qui se manifestent jusque dans certains corps de métier. À Zarzis, on entend souvent qu'il manque de cordonniers ou de travailleurs dans le bâtiment. Zarzis, 72 000 habitants l'hiver, quasiment le double en été. À cette période, la diaspora partit légalement dans les années 60-70, rentrée passer ses vacances. Là-bas, chaque famille a au moins un membre installé de l'autre côté de la Méditerranée, à tel point qu'un des quartiers de la ville est même surnommé la Petite France. Chaque été, ces Tunisiens rentrent donc au pays chargés de cadeaux pour afficher une certaines réussites. Alors à Zarzis, comme Samy, tous le disent, ces images ont alimenté leur imaginaire de l'Europe, une sorte d'eldorado économique vers lequel ces milliers de jeunes ont cru se diriger au lendemain de la Révolution.
Il y a encore le fantasme d'aller en France, surtout pour nous les Zarzisiens. La France, c'est le meilleur pays au monde. Là-bas, il y a de l'argent, on peut faire du fric, tu peux construire ta vie. Mais celui qui part là-bas et voit la France de près, il comprend que ce n'est pas vrai. Tu vis dans un tout petit espace. Quand tu mets le lit, tu ne peux plus ouvrir la porte des toilettes. C'est vraiment une vie très difficile. Et celui qui veut devenir délinquant, il peut le devenir très facilement.
Malgré ces récits, malgré le danger des traversées, les tentatives d'immigration clandestine continuent. Les autorités ne donnent aucun chiffre sur ce phénomène, mais le FTDES, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, estime que pour la seule année 2016, il y aurait eu au moins 5000 départs. Cette ONG a mené récemment une enquête de terrain auprès de 1200 jeunes dans 6 régions du pays. Face au chômage ou à l'insécurité en Tunisie, l'Europe continue de les faire rêver, analyse Romdan Benhamor, chargé des questions migratoires au sein du Forum.
Il y a 31,1% sont prêts à faire la migration clandestine.
Quasiment un jeune sur trois que vous avez rencontré.
Oui, c'est presque un sur trois. qui veulent faire la migration clandestine, malgré qu'ils savent qu'il y a des dangers. Mais malgré ça, les jeunes aussi, il y a le désir de partir parce qu'ils toujours, ils se concentrent sur les expériences réussies. Pour eux, l'exemple, c'est l'immigrant qui a réussi sa vie, qui vient chaque été donc, pour faire les vacances avec une belle voiture, qui épouse la plus belle fille du quartier ou bien du village. Donc c'est toujours l'exemple réussi, qui est l'exemple à suivre pour eux.
En 2011, ces jeunes Tunisiens sont donc partis vers l'Europe dans l'espoir de gagner de l'argent. Mais une fois sur place, c'est une difficile prise de conscience. Sans papier, tout devient une galère, manger, travailler ou même dormir dans un endroit convenable. Et face aux espoirs et aux attentes de se rester au pays, il est encore plus délicat de raconter la réalité. La plupart avouent n'avoir jamais vraiment expliqué l'envers du décor, l'enfer d'une vie clandestine. Au téléphone, beaucoup se contentent d'un récit édulcoré pour ne pas décevoir les proches. C'était par exemple la stratégie d'Ali qui est rentré par ses propres moyens après un an en France.
« Les menteurs, messieurs noirs. »
Je leur ai menti pour pas les inquiéter. Je leur disais « ça va, je suis tranquille, je travaille ». En fait, en France, j'ai appris une leçon. Comment vivre seul, de façon autonome, sans compter sur personne. Comment tu te casses la tête, comment tu te fatigues pour survivre.
Si ces mensonges entretiennent le mythe de la réussite, ils permettent surtout de garder la face. Difficile d'avouer que l'on a échoué ou que l'on rentre les poches vides. Un échec lourd à porter quand cette migration était bien souvent un projet familial, explique Lorraine Alando, la chef de mission de l'OIM en Tunisie, l'Organisation internationale pour les migrations.
Revenir, c'est ça. Si j'arrive sans rien et je n'ai pas fait vraiment grand-chose, c'est un échec. Quand il s'agit des personnes qui quittent le foyer, enfin disons c'est la famille, c'est la maman qui couvre les frais, peut-être vendre les bijoux, etc. pour faire partir son fils. Et donc là il y a aussi donc tout cet espoir, que c'est un projet de famille, donc si mon fils va réussir, on va tous, voilà, c'est gagnant-gagnant.
Donc c'est difficile de rentrer.
C'est difficile de rentrer. Je crois que c'est ça, que c'est psychologique. Je crois que c'est important du travail aussi, du social justement, du psychosocial. Donc c'est important de les accompagner. Pas rester toute seule, voilà.
Après des années d'isolement, certains Tunisiens expliquent avoir plus ou moins réussi à surmonter leur échec, à accepter la honte de rentrer au pays sans le sou parce que les motivations personnelles étaient devenues plus fortes.
C'est ma parole qui me manque. Si je perds quelqu'un de ma famille, je suis mort. Donc je ne peux pas rester encore plus loin d'eux. Voilà, et je dis, tant que j'ai ma santé, je peux travailler même là-bas à 10 euros, à 5 euros. Il faut que je voie ma famille.
Tu ne les as pas vus pendant plus de 5 ans?
Ouais. C'est pour ça que je pensais à rentrer sans penser à l'argent, à l'euro, tout ça.
Je suis retourné volontairement. C'est moi qui ai décidé de rentrer. Et à ce moment-là, il y avait ma mère qui était un peu malade et elle a eu un arrêt cardiaque. Donc j'étais trop envie de rentrer, quoi. J'étais en plus stable, j'avais ma femme et en train de faire le dossier et tout ça. Et du coup, j'ai tout coupé. Voilà.
Pour rentrer en Tunisie, Nasser et Selim ont tous deux bénéficié d'une aide au retour volontaire. En France, ils se sont tournés vers l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui propose ce dispositif depuis 2008. Concrètement, l'OFI aide à l'obtention des documents de voyage et prend en charge le billet de retour. À l'embarquement, un pécule est fourni. Il varie en fonction des époques et des dispositifs. Aujourd'hui, un Tunisien reçoit en moyenne 650 euros en argent liquide. Depuis 2011, ils sont environ 2000 à avoir bénéficié de ce dispositif. Proposé par l'OFI, 2000 retours volontaires sur les quelques 40 000 Tunisiens partis au lendemain de la Révolution. En Europe, d'autres programmes de ce type existent, notamment en Belgique, en Italie ou en Suisse. Ces pays collaborent souvent avec l'OIM et là on parle plutôt d'assistance au retour. Nasser et Selim expliquent avoir contacté d'eux-mêmes l'OFI parce que certains de leurs amis avaient déjà expérimenté ce programme. D'autres Tunisiens en prennent connaissance après avoir reçu par la préfecture une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. C'est notamment sur ce document que sont indiquées les coordonnées de l'OFI. Jean-Pierre Cassarino, chercheur associé à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain à Tunis, s'interroge donc sur la dimension réellement volontaire de ce type de dispositif.
Il faut être très prudent avec l'emploi des mots. Le retour volontaire est une forme cachée d'expulsion. Le retour volontaire est apparu comme s'opposant au retour dit forcé, ça veut dire réadmission ou expulsion. il y a une bonne vingtaine d'années, si vous voulez. C'est une catégorie de pensée qui a été introduite de manière à convaincre les états d'origine de ces personnes à délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires à l'expulsion, moyennant un financement. Puisque les pays d'origine ont toujours été réticents, pour des raisons tout à fait compréhensibles, au fait que ces personnes reviennent au pays les mains vides et constituent donc un fardeau pour l'économie et la société. Ce sont des personnes, ceux qui font l'objet de ces programmes, souvent en situation d'échec. Vous trouverez peut-être une personne sur 50 qui, en fait, a eu un parcours tout à fait exemplaire et qui ira voir telle ou telle agence afin de bénéficier d'un retour volontaire. Mais cela est un cas rare. 98% de ces personnes sont en situation d'échec.
J'entends souvent certaines associations dire que le retour volontaire est un éloignement déguisé, une expulsion déguisée. Non.
Stéphane Darmas est le directeur de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Tunis.
Les personnes qui font appel à notre dispositif, on leur a donné le choix. Elles ont décidé de se raccrocher à ça. Et je vous assure que ce n'est pas ce dispositif qui va tenter un grand nombre de partir parce qu'il y a cet effet d'aubaine qui leur permettrait d'avoir une grosse somme d'argent, ce n'est pas le cas. Il y a eu un parcours compliqué, difficile pour de nombreux jeunes. Et quand ils ont besoin de rentrer, quand la situation est devenue vraiment très compliquée, il n'y a pas différentes solutions. Soit ils rentrent d'eux-mêmes, soit ils sont expulsés, soit ils ont ce dispositif qui représente une alternative à l'expulsion.
Selon l'OFI, ce dispositif permet avant tout de raccompagner dignement ces Tunisiens, mais pour l'État français, l'aide au retour volontaire est aussi un coût 10 fois inférieur à une reconduite forcée. Entre les maintiens en centre de rétention, le passage au tribunal ou une éventuelle escorte policière, l'expulsion d'un sans-papier est estimée à près de 20 000 euros selon un rapport sénatorial. C'est donc bien plus que le coût d'une aide au retour volontaire, auquel peut s'ajouter un autre dispositif, une prime à la réinstallation.
La base de rentrée, c'est ma famille, c'est tout. C'est pas l'argent, c'est pas les projets.
Retour dans le sud tunisien, cette fois à Medellin, à une heure de route environ de Zarzis. Nous retrouvons Nasser, ce jeune homme de 26 ans parti en 2011, qui a passé 5 ans en France.
Après, je dis oui, pourquoi pas, si je rentre avec l'OFI, il me donne un billet avec une petite somme. Et en même temps, elle m'a proposé, la dame à l'OFI, elle m'a dit qu'il y a une petite aide au projet là-bas. Si tu veux, ramène-moi quelques idées pour voir. Voilà, je parlais pour le projet d'élevage et tout. Et avec cette aide, je peux travailler chez moi, mon projet. C'est ça.
En plus de l'aide au retour volontaire, l'OFI propose également une enveloppe additionnelle, l'aide à la réinsertion. Là aussi, les termes diffèrent entre les organismes, l'OIM parlant plutôt d'aide à la réintégration. Mais l'objectif est le même, oublier l'échec en Europe et permettre à ces Tunisiens dans l'impasse de rentrer avec un projet de les repositionner économiquement et socialement dans leur région d'origine. Le migrant de retour est même appelé entrepreneur.
Aujourd'hui, on vous reçoit parce que vous êtes un entrepreneur qui a un projet et qu'on veut aider à lancer.
Ouais.
Donc là où on vous attend, c'est vraiment sur les explications que vous allez nous donner sur votre projet. Pourquoi ce projet et comment vous allez faire pour le mettre en place?
Pour obtenir cette nouvelle aide, Nasser passe ici en comité de sélection. Devant une sorte de jury composé de membres de l'OFI et de l'Agence tunisienne pour l'emploi, il présente son projet d'élevage de bétail à Ben Garden, sa ville d'origine située à la frontière libyenne. Mais avant cette étape, Nasser a été accompagné par une association locale pour monter un dossier de subvention, quasiment un business plan. Achat de matériel, location de terrain, estimation du chiffre d'affaires, tout y est détaillé. Et pour prouver son engagement, le micro-entrepreneur doit d'ailleurs fournir un apport personnel, environ 20% du montant total du financement, autant de critères qui sont ici décortiqués par le jury.
L'apport, Nidesh en pourcentage
19.
Donc on est à 2. Il était à 2 millions quand même.
Ce jour-là, le comité valide le projet de Nasser. En moyenne, la subvention est de 5 500 euros, mais pour éviter tout abus, elle est confiée aux opérateurs de terrain, ceux qui ont aidé ces tout nouveaux entrepreneurs à monter les projets. Ces associations les accompagnent en fait jusque dans l'achat du matériel. Toutes les dépenses doivent être justifiées pour obtenir l'intégralité de la subvention découpée en 3 tranches. Derrière ce cadre très réglementé, l'objectif est surtout d'inscrire le projet dans l'économie locale de manière formelle, avec protection sociale et contrat de travail, précise Stéphane Darmas.
Quand on a des jeunes qui reviennent et qui étaient en situation administrative d'impasse, on n'est pas là pour leur rappeler leur statut et encore moins pour regarder leur succès, leur échec à travers le prisme de leur expérience migratoire. C'est pas ça, on est avant tout face à des micro-entrepreneurs qui ont une expérience et qui participent tout à fait au développement local. Quand on parle par exemple de 2011, la révolution à Ben Gardane, c'est 40% des bergers qui disparaissent. Ça a un impact fort sur la vente, évidemment, des agneaux, des brebis. Et ça empêche le pays d'avoir ce qu'il faut pour les fêtes religieuses qui demandent, évidemment, à avoir un stock important. Donc on va aller chercher ailleurs dans ces cas-là. Le retour de jeunes qui se remettent dans l'élevage au vin, c'est quelque chose qui accompagne le développement local. On ne peut pas le nier.
Il a donc déposé un projet d'engraissement de veau dans l'endroit où nous nous rendons et il a pu se faire valider son projet avec les conditions suivantes. Il avait à peu près 20% d'apport personnel, ce qui représentait la somme de 1500 euros à peu près, et puis il a obtenu une subvention de l'OFI d'un montant d'à peu près 6000 euros pour pouvoir mettre en forme son projet.
Pendant au moins une année de suivi, l'OFI va à la rencontre de ces micro-entrepreneurs pour contrôler les investissements effectués. Ici, sur l'île de Djerba, Stéphane Darmas retrouve Foued, qui a passé 4 ans en France. Au milieu de son étable assez sommaire, cet éleveur se dit soulagé d'être rentré au pays. Avec la subvention, il a pu acheter 4 veaux.
J'ai décidé de rentrer volontairement. J'avais un projet en tête et quand j'ai entendu parler de la possibilité de financement de l'OFI, je me suis dirigé vers eux parce que j'aime l'agriculture. Et quand j'ai reçu l'argent, ma vie a complètement changé.
C'est très très bon.
On peut lui demander si de revenir un tout petit peu sur ses 4 ans de séjour en France. Comment est-ce qu'il avait vécu cette période-là?
Il y avait beaucoup de froid, j'ai vécu sous un pont, j'ai vécu dans la merde. Je retournerai jamais en France, c'est fini.
Vous ne retournerez plus en France.
Là, ça y est. Ça y est.
Ici, à Djerba, autour de vous, vous avez encore beaucoup de jeunes qui font état de leur envie de partir. Et qu'est-ce que vous leur dites si ça arrive?
La France, ça y est. Pas de l'argent, ça y est.
Mais est-ce qu'ils vous croient?
Là, ça se connaît. Là.
Non, ils ne me croient pas.
Vous leur dites de ne pas partir?
Je leur conseille de rester ici et de faire des projets, comme moi. Pourquoi partir? Il n'y a rien là-bas.
Ben, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Merci, monsieur. Merci, les mains.
Secteur agricole, mais aussi pêche ou commerce de proximité. Au total, l'OFI a financé environ 400 projets d'aide à la réinsertion depuis la vague migratoire de 2011. Des projets en diminution l'année dernière, seuls 22 dossiers ont été déposés. Mais ces quelques centaines de retours sont en train d'être étudiés pour servir de base de travail. D'ici 3 ans, la Tunisie et les États européens intéressés devraient mettre en place une plateforme. L'objectif serait de définir des règles communes pour faciliter la réinsertion de ces Tunisiens de retour. Rentrer au pays la tête haute, un grand reportage de Jeanne Bergawi, réalisation Sandrine Straham.
مجتمع غاب عبيدو حيوانات شوف اللي كبره بالهتد واللي حياته مشاتة تبليون تجماني ماما الدنيا غلاتة ومنيتو يخلط يحلم حلمة كل عبادة في بلاد الرشوة كاش في بلاد الفسادة في بلاد الزوالية هزت ساقيها بشوالاتة في بلاد الدهك وما تقولش يزيني عييت وين تربيت وين الدين نسيت